Nous reprenons la lecture du roman « Le crime d'Orcival » d'Émile Gaboriau. Nous nous arrêterons vers la fin du troisième chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel. Gendarmes, cria-t-il encore aux hommes en faction devant la grille, veillez à ce que personne ne s'éloigne, empêchez d'entrer dans la maison et que nul surtout ne pénètre dans le jardin. On monta alors. Tout le long de l'escalier, les taches de sang se répétaient. Il y avait aussi du sang sur la rampe et M. Coursois s'aperçut avec horreur qu'il s'y était rougi les mains. Lorsqu'on fut arrivé au palier du premier étage, « Dites-moi, mon ami, demanda le maire au valet de chambre, vos maîtres faisaient-ils chambre commune ?»« Oui, monsieur, répondit le domestique. Et où est leur chambre ?»« Là, monsieur. » Et en même temps qu'il répondait, le valet de chambre reculait, effrayé, et montrait une porte dont le panneau supérieur portait l'empreinte d'une main ensanglantée. Des gouttelettes de sueur perlaient sur le front du pauvre maire. Lui aussi, il avait peur. À grand-peine, il pouvait se tenir debout. Hélas, le pouvoir impose de terribles obligations. Le brigadier, un vieux soldat de Crimée, visiblement ému, hésitait. Seul, le père Planta, tranquille comme dans son jardin, gardait son sang-froid et regardait les autres en dessous. Il faut pourtant se décider, prononça-t-il. Il entra, les autres le suivirent. La pièce où on pénétra n'offrait rien de bien insolite. C'était un boudoir tendu de satin bleu, garni d'un divan et de quatre fauteuils capitonnés en étoffe pareille à la tenture. Un des fauteuils était renversé. On passa dans la chambre à coucher. Effroyable était le désordre de cette pièce. Il n'était pas un meuble, pas un bibelot qui n'attesta qu'une lutte terrible, enragée, sans merci, avait eu lieu entre les assassins et les victimes. Au milieu de la chambre, une petite table de laque était renversée, et tout autour s'éparpillaient des morceaux de sucre, des cuillères de vermeil, des débris de porcelaine. « Ah !» dit le valet de chambre, « monsieur et madame prenaient le thé lorsque les misérables sont entrés. » La garniture de la cheminée avait été jetée à terre. La pendule, en tombant, s'était arrêtée sur 3h20. Près de la pendule gisaient les lampes, les globes étaient en morceaux, l'huile s'était répandue. Le ciel de lit avait été arraché et couvrait le lit. On avait dû s'accrocher désespérément aux draperies. Tous les meubles étaient renversés. L'étoffe des fauteuils était hachée de coups de couteau, et par endroits, le crin sortait. On avait enfoncé le secrétaire, la tablette disloquée pendait aux charnières, les tiroirs étaient ouverts et vides, la glace de l'armoire en pièces, un ravissant chiffonnier de boules, la table à ouvrage brisée, la toilette bouleversée. Et partout du sang, sur le tapis, le long de la tapisserie, aux meubles, aux rideaux du lit surtout. Évidemment, le comte et la comtesse de Trémorel s'étaient défendus courageusement et longtemps. Les malheureux, balbutia le pauvre maire, les malheureux, c'est ici qu'ils ont été massacrés. Et au souvenir de son amitié pour le comte, oubliant son importance, jetant son masque d'homme impassible, il pleura. Tout le monde perdait un peu la tête, Mais pendant ce temps, le juge de paix se livrait à une minutieuse perquisition, il prenait des notes sur son carnet, il visitait les moindres recoins. Lorsqu'il eut terminé, « Maintenant, dit-il, voyons ailleurs. » Ailleurs, le désordre était pareil. Une bande de fous furieux ou de malfaiteurs pris de frénésie avait certainement passé la nuit dans la maison. Le cabinet du comte, particulièrement, avait été bouleversé. Les assassins ne s'étaient pas donné la peine de forcer les serrures, ils avaient procédé à coups de hache. Certainement, ils avaient la certitude de ne pouvoir être entendus, car il leur avait fallu frapper terriblement fort pour faire voler en éclats le bureau de chêne massif. Les livres de la bibliothèque étaient à terre pêle-mêle. Ni le salon, ni le fumoir n'avaient été respectés. Les divans, les chaises, les canapés étaient déchirés comme si on les eût sondés avec des épées. Deux chambres réservées, des chambres d'amis, étaient sans dessus-dessous. On monta au second étage. Là, dans la première pièce où on pénétra, on trouva devant un bahut, attaqué déjà, mais non ouvert encore, une hache à fendre le bois que le valet de chambre reconnut pour appartenir à la maison. « Comprenez-vous maintenant, disait le maire au père Plantin, les assassins étaient en nombre, c'est évident. Le meurtre accompli, ils se sont répandus dans la maison, cherchant partout l'argent qu'ils savaient y trouver. L'un d'eux était si occupé à enfoncer ce meuble lorsque les autres, en bas, ont mis la main sur les valeurs, on l'a appelé. Il s'est empressé de descendre et, jugeant toute recherche désormais inutile, il a abandonné ici cette hache. « Je vois la chose comme si j'y étais », approuva le brigadier. Le rez-de-chaussée qu'on visita ensuite avait été respecté. Seulement, le crime commis, les valeurs enlevées, les assassins avaient senti le besoin de se réconforter. On retrouva dans la salle à manger des débris de leur souper. Ils avaient dévoré tous les reliefs restés dans les buffets. Sur la table, à côté de 8 bouteilles vides, bouteilles de vin ou de liqueur, 5 verres étaient rangés. « Ils étaient 5 !» murmura le maire. À force de volonté, l'excellent M. Courtois avait recouvré son sang-froid habituel. « Avant d'aller relever les cadavres, dit-il, je vais expédier un mot au procureur impérial de Corbeil. Dans une heure, nous aurons un juge d'instruction qui achèvera notre pénible tâche. » Ordre fut donné à un gendarme d'atteler le tilbury du comte et de partir en toute hâte. Puis le maire et le juge, suivis du brigadier, du valet de chambre et des deux Berthaud, s'acheminèrent vers la rivière. Le parc de Valfeuillu est très vaste, mais c'est de droite et de gauche qu'il s'étend. De la maison à la Seine, il n'y a guère plus de 200 pas. Devant la maison verdoie une belle pelouse coupée de corbeilles de fleurs. On prend pour gagner le bord de l'eau une des deux allées qui tournent le gazon. Mais les malfaiteurs n'avaient pas suivi les allées. Coupant au plus court, ils avaient traversé la pelouse. Leurs traces étaient parfaitement visibles. L'herbe était foulée et trépignée, comme si on y eût traîné quelque lourd fardeau. Au milieu du gazon, on aperçut quelque chose de rouge que le juge de paix alla ramasser. C'était une pantoufle que le valet de chambre reconnut pour appartenir au comte. Plus loin, on trouva un foulard blanc que le domestique déclara avoir vu souvent au cou de son maître. Ce foulard était taché de sang. Enfin, on arriva au bord de l'eau. Sous ces saules dont Philippe avait voulu couper une branche, et on aperçut le cadavre. Le sable à cette place était profondément fouillé, labouré, pour ainsi dire, par des pieds cherchant un point d'appui solide. Là, tout l'indiquait, avait eu lieu la lutte suprême. M. Courtois comprit toute l'importance de ces traces. « Que personne n'avance !» dit-il. Et, suivi, seul du juge de paix, il s'approcha du corps. Bien qu'on ne pût distinguer le visage, le maire et le juge reconnurent la comtesse. Tous deux lui avaient vu cette robe grise ornée de passementeries bleues. Maintenant, comment se trouvait-elle là? Le maire supposa qu'ayant réussi à s'échapper des mains des meurtriers, elle avait fui, éperdue. On l'avait poursuivie, on l'avait atteinte, là. On lui avait porté les derniers coups et elle était tombée pour ne plus se relever. Cette version expliquait les traces de la lutte. Ce serait alors le cadavre du comte que les assassins auraient traîné à travers la pelouse. Monsieur Courtois parlait avec animation, cherchant à faire pénétrer ses impressions dans l'esprit du juge de paix. Mais le père Plantat écoutait à peine. On ne put le croire à 100 lieues de Valfeuillu. Il ne répondait que par monosyllabes. Oui, non, peut-être. Et le brave maire se donnait une peine infinie. Il allait, venait, prenait des mesures, inspectait minutieusement le terrain. Il n'y avait pas à cet endroit plus d'un pied d'eau. Un banc de vase sur lequel poussaient des touffes de glaïeul et quelques maigres nénuphars allaient en pente douce du bord au milieu de la rivière. L'eau était fort claire, le courant nul. On voyait fort bien la vase lisse et luisante. Monsieur Courtois en était là, de ses investigations, lorsqu'il fut frappé d'une idée subite. « La ripaille ! » s'écria-t-il. « Approchez !» Le vieux maraudeur obéit. « Vous dites donc, interrogea le maire, que c'est de votre bateau que vous avez aperçu le corps.
« Ah oui, monsieur le maire.
Où est-il, votre bateau ?»
Ben « là, amarré à la prairie. »«
Eh bien, conduisez-nous-y. » Pour tous les assistants, il fut visible que cet ordre impressionnait vivement le bonhomme. Il tressaillit et pâlit sous l'épaisse couche de hâle déposée sur ses joues par la pluie et le soleil. Même, on le surprit jetant à son fils un regard qui parut menaçant.
« Marchons !» répondit-il enfin.
On allait regagner la maison lorsque le valet de chambre proposa de franchir la douve.
« Ce serait bien plus vite fait, dit-il. Je cours chercher une échelle que nous mettrons en travers. »
Il partit et une minute après reparut avec sa passerelle improvisée. Mais au moment où il allait la placer,
« Arrêtez !»
lui cria le maire. « Arrêtez !»
Les empreintes laissées par les berteaux sur les deux côtés du fossé venaient de lui sauter aux yeux.
« Qu'est-ce ceci ? » dit-il. « Évidemment, on est passé par là, il n'y a pas longtemps. Ces traces de pas sont toutes fraîches. »
Et après un examen de quelques minutes, il ordonna de placer l'échelle plus loin. Lorsqu'on fut arrivé près du bateau,
« C'est bien là ?» demanda le maire à la ripaille. « L'embarcation avec laquelle vous êtes allé relever vos nasses ce matin ?»«
Ah oui, monsieur. »
« Alors, reprit monsieur Courtois, de quels ustensiles vous êtes-vous servi ? Votre épervier est parfaitement sec. Cette gaffe et ses rames n'ont pas été mouillées depuis plus de 24 heures. »
Le trouble du père et du fils devenait de plus en plus manifeste.
« Persistez-vous dans vos dires, Berthaud ? » insista le maire.
« Certainement. »
« Et vous, Philippe ? » ?»«
Monsieur, balbutia le jeune homme, nous avons dit la vérité. »
« Vraiment ? » reprit M. Courtois d'un ton ironique. « Alors vous expliquerez à qui de droit comment vous avez pu voir quelque chose d'un bateau sur lequel vous n'êtes pas monté ?
Ah, ah, dame, on ne pense pas à tout.
On vous prouvera aussi que le corps est placé de telle façon qu'il est impossible, vous m'entendez, absolument impossible de l'apercevoir du milieu de la rivière. »
Puis vous aurez à dire encore quelles sont ces traces que je relève, là sur l'herbe, et qui vont de votre bateau à l'endroit où le fossé a été franchi à plusieurs reprises et par plusieurs personnes. »
Les deux Berthaud baissaient la tête.
« Brigadier, ordonna monsieur le maire, au nom de la loi, arrêtez ces deux hommes et empêchez toute communication entre eux. »
Philippe semblait près de se trouver mal. Mais le vieux la ripaille, il se contenta de hausser les épaules et de dire à son fils « Hein, tu l'as voulu, n'est-ce pas ?»
Puis, pendant que le brigadier emmenait les deux maraudeurs qu'il enferma séparément et sous la garde de ses hommes, le juge de paix et le maire rentraient dans le parc.
« Avec tout cela, murmurait M. Courtois, pas de trace du comte. »
Il s'agissait de relever le cadavre de la comtesse.
Le maire envoya chercher deux planches qu'on déposa à terre avec 1000 précautions, et ainsi on put agir sans risquer d'effacer des empreintes précieuses pour l'instruction. Hélas, était-ce bien là celle qui avait été la belle, la charmante comtesse de Trémorel ? Était-ce là ce frais visage riant, ces beaux yeux parlants, cette bouche fine et spirituelle ? Rien, il ne restait rien d'elle. La face tuméfiée, souillée de boue et de sang, n'était plus qu'une plaie. Une partie de la peau du front avait été enlevée avec une poignée de cheveux. Les vêtements étaient en lambeaux. Une ivresse furieuse affolait certainement les monstres qui avaient tué la pauvre femme. Elle avait reçu plus de 20 coups de couteau. Elle avait dû être frappée avec un bâton, ou plutôt avec un marteau. On l'avait foulée aux pieds, traînée par les cheveux. Dans sa main gauche crispée était un lambeau de drap commun grisâtre, arraché probablement aux vêtements d'un des assassins. Tout en procédant à ces lugubres constatations et en prenant des notes pour son procès-verbal, le pauvre maire sentait si bien ses jambes fléchir qu'il était forcé de s'appuyer sur l'impassible père Planta. « Portons la comtesse à la maison, » ordonna le juge de paix. « Nous verrons ensuite à chercher le cadavre du comte. » Le valet de chambre et le brigadier qui étaient revenus durent réclamer l'assistance des domestiques restés dans la cour. Du même coup, les femmes se précipitèrent dans le jardin. Ce fut alors un concert terrible de cris, de pleurs et d'imprécations. Les misérables, une si brave femme, une si bonne maîtresse. Monsieur et madame de Trémorel étaient, on le vit bien à cette occasion, adorés de leurs gens. On venait de déposer le corps de la comtesse au rez-de-chaussée, sur le billard, lorsqu'on annonça au maire l'arrivée du juge d'instruction et d'un médecin. « Enfin !» murmura le bon monsieur Courtois. Et plus bas, il ajouta, « Les plus belles médailles ont leur revers. » Pour la première fois de sa vie, il venait sérieusement de maudire son ambition et de regretter d'être le plus important personnage d'Orcival.
D'instruction près le tribunal de Corbeil était alors un remarquable magistrat, M. Antoine Domini, appelé depuis à d'éminentes fonctions. M. Domini est un homme d'une quarantaine d'années, fort bien de sa personne, doué d'une physionomie heureusement expressive, mais grave, trop grave. En lui semble s'être incarnée la solennité parfois un peu roide de la magistrature. Pénétré de la majesté de ses fonctions, il aura sacrifié sa vie, se refusant les distractions les plus simples, les plus légitimes plaisirs. Il vit seul, se montre à peine, ne reçoit que de rares amis, ne voulant pas, dit-il, que les défaillances de l'homme puissent porter atteinte au caractère sacré du juge et diminuer le respect qu'on lui doit. Cette dernière raison l'empêchait de se marier, bien qu'il se sentît fait pour la vie de famille. Toujours et partout, il est magistrat, c'est-à-dire le représentant convaincu jusqu'au fanatisme de ce qu'il y a de plus auguste au monde, la justice. Naturellement gai, il doit s'enfermer à double tour lorsqu'il a envie de rire. Il a de l'esprit, mais si un bon mot ou une phrase plaisante lui échappe, soyez sûr qu'il en fait pénitence. C'est bien corps et âme qui s'est donné à son état, et nul ne saurait apporter plus de conscience à remplir ce qu'il estime son devoir. Mais aussi, il est inflexible plus qu'un autre. Discuter un article du Code est à ses yeux une monstruosité. La loi parle, il suffit, il ferme les yeux, se bouche les oreilles et obéit. Du jour où une instruction est commencée, il ne dort plus et rien ne lui coûte pour arriver à la découverte de la vérité. Cependant, on ne le considère pas comme un bon juge d'instruction. Lutter de ruse avec un prévenu lui répugne. Tendre un piège à un coquin est, dit-il, indigne. Enfin, il est entêté, mais entêté jusqu'à la folie, parfois jusqu'à l'absurde, jusqu'à la négation du soleil en plein midi. Le maire d'Orcival et le père Planta s'étaient levés avec empressement pour courir au-devant du juge d'instruction. Monsieur Domini les salua gravement, comme s'il ne les eût point connus, et leur présentant un homme d'une soixantaine d'années qui l'accompagnait. « Messieurs, dit-il, monsieur le docteur Gendron. » Le père Planta échangea une poignée de main avec le médecin. Monsieur le maire lui adressa son sourire le plus officiellement gracieux. « C'est que le docteur Gendron est bien connu à Corbeil et dans tout le département. Il y est même célèbre, malgré le voisinage de Paris. Praticien d'une habileté hors ligne, aimant son art et l'exerçant avec une sagacité passionnée, le docteur Gendron doit cependant sa renommée moins à sa science qu'à ses façons d'être. On dit de lui, c'est un original, et on admire ses affectations d'indépendance, de scepticisme et de brutalité. C'est entre 5h et 9h du matin, été comme hiver, qu'il fait ses visites. Tant pis pour ceux que cela dérange. Ce ne sont point, Dieu merci, les médecins qui manquent. Passé 9h, bonsoir, personne, plus de docteur. Le docteur travaille pour lui. Le docteur est dans sa serre. Le docteur inspecte sa cave. Le docteur est monté à son laboratoire, près du grenier, où il cuisine des ragoûts étranges. Il cherche, dit-on dans le public, des secrets de chimie industrielle pour augmenter encore ses 20 000 livres de rente, ce qui est bien peu digne. Et il laisse dire, car le vrai est qu'il s'occupe de poison et qu'il perfectionne un appareil de son invention, avec lequel on pourra retrouver les traces de tous les alcaloïdes qui, jusqu'ici, échappent à l'analyse. Si ses amis lui reprochent, même en plaisantant, d'envoyer promener les malades dans l'après-midi, il se fâche tout rouge. « Parbleu, répond-il, je vous trouve superbe. Je suis médecin 4 heures par jour. Je ne suis guère payé que du quart de mes malades. C'est donc 3 heures que je donne quotidiennement à l'humanité que je méprise et à la philanthropie dont je me soucie. Que chacun de vous en donne autant et nous verrons. » Cependant, monsieur le maire d'Orcival avait fait passer les nouveaux venus dans le salon où il s'était installé pour rédiger son procès-verbal. Quel malheur pour ma commune que ce crime, disait-il au juge d'instruction. Quelle honte! Voilà Orcival perdu de réputation. C'est que je ne sais rien, ou autant dire, répondait monsieur Domini. Le gendarme qui est venu me chercher était mal informé. Alors, monsieur Courtois raconta longuement ce que lui avait appris son enquête sommaire, n'oubliant pas le plus inutile détail, insistant sur les précautions admirables qu'il avait cru devoir prendre. Il dit comment l'attitude des Berthaud avait tout d'abord éveillé ses soupçons, comment il les avait pris, à tout le moins, en flagrant délit de mensonge, comment finalement il s'était décidé à les faire arrêter. Il parlait debout, la tête rejetée en arrière, avec une emphase verbeuse, s'écoutant, triant les expressions. Et à chaque instant, les mots de « nous, maire d'Orcival » ou de « ensuite de quoi » revenaient dans son discours. Enfin, il s'épanouissait dans l'exercice de ses fonctions et le plaisir de parler le dédommageait un peu de ses angoisses. « Et maintenant, conclut-il, je viens d'ordonner les plus exactes perquisitions qui, sans nul doute, nous feront retrouver le cadavre du comte. 5 hommes par mois requis et tous les gens de la maison battent le parc. Si leurs recherches ne sont pas couronnées de succès, j'ai sous la main des pêcheurs qui sonderont la rivière. » Le juge d'instruction se taisait, hochant simplement la tête de temps à autre en signe d'approbation. Il étudiait, il pesait les détails qui lui étaient communiqués, bâtissant déjà dans sa tête un plan d'instruction. Vous avez fort sagement agi, monsieur le maire, dit-il enfin. Le malheur est immense, mais je crois comme vous que nous sommes sur la trace des coupables. Ces maraudeurs que nous tenons, ce jardinier qui n'a pas reparu, doivent être pour quelque chose dans le crime abominable. Depuis quelques minutes déjà, le père Plantin dissimulait tant bien que mal, plutôt mal que bien, des signes d'impatience. Le malheur est, dit-il, que si Guespin est coupable, il ne sera pas assez sot pour se présenter ici. Oh, nous le trouverons, répondit M. Domini. Avant de quitter Corbeil, j'ai envoyé à Paris, à la préfecture de police, une dépêche télégraphique pour demander un agent de police de sûreté, et il sera, je l'imagine, ici, avant peu. En attendant, proposa le maire, vous désireriez peut-être, monsieur le juge d'instruction, visiter le théâtre du crime. Monsieur Domini eut un geste comme pour se lever et se rassit aussitôt. Au fait, non, dit-il, autant ne rien voir avant l'arrivée de notre agent. Mais j'aurais bien besoin de renseignements sur le comte et la comtesse de Trémorel. Le digne maire triompha de nouveau. Oh, je puis vous en donner, répondit-il vivement, et mieux que personne. Depuis leur arrivée dans ma commune, j'étais, je puis le dire, un des meilleurs amis de monsieur le comte et madame la comtesse. Ah, monsieur, quel gens charmants, et excellents, et affables, et dévoués! Et au souvenir de toutes les qualités de ses amis, M. Courtois éprouva une certaine gêne dans la gorge. Le comte de Trémorel, reprit-il, était un homme de 34 ans, beau garçon, spirituel jusqu'au bout des ongles. Il avait bien parfois des accès de mélancolie pendant lesquels il ne voulait voir personne. Mais il était d'ordinaire si aimable, si poli, si obligeant, il savait si bien être noble sans morgue que tout le monde dans la commune l'estimait et l'adorait. Et la comtesse ? Demanda le juge d'instruction. Un ange, monsieur, un ange sur la terre. Pauvre femme, vous allez voir ses restes mortels tout à l'heure, et certes, vous ne devinerez pas qu'elle a été la reine du pays par la beauté. Le comte et la comtesse étaient-ils riches ? Certes, ils devaient réunir à eux deux plus de 100 000 francs de rente. Oh oui, beaucoup plus ! Car depuis 5 ou 6 mois, le comte, qui n'avait pas pour la culture les aptitudes de ce pauvre Sauvresy, vendait les terres pour acheter de la rente. Était-il marié depuis longtemps ? Monsieur Courtois se gratta la tête. C'était son invocation à la mémoire. « Ma foi, répondit-il, c'est au mois de septembre de l'année dernière. Il y a juste 10 mois que je les ai mariés moi-même. » Il y avait un an que ce pauvre Sauvresy était mort. Le juge d'instruction abandonna ses notes pour regarder le maire d'un air surpris. « Quel est, demanda-t-il, ce Sauvresy dont vous parlez ?» Le père Plantin, qui se mordillait furieusement les ongles dans son coin, étranger en apparence à ce qui se passait, se leva vivement. « Monsieur Sauvresy, dit-il, était le premier mari de madame de Trémorel. Mon ami Courtois avait négligé ce fait. » « Oh !» riposta le maire d'un ton blessé. « Il me semble que dans les conjonctures présentes... »« Pardon !» interrompit le juge d'instruction. « Il est un tel détail qui peut devenir précieux, bien qu'étranger à la cause, et même insignifiant au premier abord. »« Hum !» grommela le père Plantin. « Insignifiant, étranger. » Son ton était à ce point singulier, son air si équivoque, que le juge d'instruction en fut frappé. « Ne partageriez-vous pas, monsieur, demanda-t-il, les opinions de monsieur le maire sur le compte des époux Trémorel ?» Le père Plantin haussa les épaules. « Je n'ai pas d'opinion, moi, répondit-il. Je vis seul, je ne vois personne, que m'importent toutes ces choses. Cependant, il me semble, s'exclama M. Courtois, que nul mieux que moi ne doit connaître l'histoire de Jean, qui ont été mes amis et mes administrés. « C'est qu'alors, répondit sèchement le père Plantin, vous la comptez mal. »
Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.